Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question de parler de littérature. Ici, on va lire des livres, tourner des pages, bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire, un lecteur modeste, votre serviteur du jour, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Il y a quelques semaines, nous avions parcouru le Paris de Simenon et de Maigret. Je vous propose aujourd'hui de lire un autre maître du polar, anglais cette fois-ci, ou peut-être bien américain. Vous verrez, il est facile de se tromper avec James Hadley Chase. Cet auteur, fils d'un colonel, découvre sa vocation en faisant du porte-à-porte. Il se rend compte, alors, de la demande de la part du public anglais pour les histoires d'intrigues, de suspense et de gangsters américains. Son premier roman, « Pas d'orchidée pour Miss Blandish », publié en 1939, est un succès immédiat. Chase deviendra un maître du genre, sondant avec justesse la frustration et les névroses de la société américaine d'après-guerre. Ses romans participeront notamment au succès, en France, de la série noire de Gallimard, imaginée par Marcel Duhamel. D'ailleurs, Gallimard présente les livres de Chase comme étant traduits de l'américain et non de l'anglais. C'est assez curieux quand on sait que Chase ne connaît pas de visu les États-Unis. Il utilise uniquement les dictionnaires d'argot américain, des encyclopédies et des cartes géographiques détaillées pour écrire ses romans. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la chair de l'orchidée. Dans ce roman, 20 ans se sont passés depuis le kidnapping de Miss Blandish, l'héroïne du premier roman de Chase. Aussi belle que dangereuse, Carole Blandish vient de s'enfuir d'un hôpital psychiatrique. Une proie par ailleurs richissime que tout le pays s'apprête à traquer, les uns pour la récompense, les autres pour le prestige, d'autres encore pour des motifs toujours plus troubles. Pour notre lecture du jour, je commence page 46. Miss Blandish vient de s'évader de l'hôpital psychiatrique dans lequel elle résidait depuis sa tendre enfance. Sam Garland et Joe nettoyaient une voiture ambulance dans le grand garage de l'asile de Glenview. « Ne regarde pas, » dit Sam tout en frottant la carrosserie. « Voilà encore ce fouineur de journaliste qui s'amène. » Joe laissa voir ses deux dents horrifiées. « Il me plaît ce type-là. Il a de la suite dans les idées. Tu crois pas qu'on pourrait lui tirer un peu de pognon ?»« Je suis pour, » dit Sam, tout en reculant pour admirer les phares chromés et étincelants. Phil Margrat, grand, mince, un peu bohème d'allure, s'approchait d'eux d'un air nonchalant. Toute la semaine, il avait rôdé aux alentours, tâchant d'obtenir quelques indications dignes de foi au sujet de la malade échappée de Glenview. Mais, sauf une brève déclaration du docteur Travers, dont on ne pouvait rien tirer, et un courtois « Foutez-moi le camp d'ici !» du shérif Camp, il n'avait rien pu arracher à personne. Margrat, reporter de la région en même temps que correspondant spécial de plusieurs journaux du Midwest, possédait un flair étonnant pour dénicher l'information sensationnelle et il sentait qu'une histoire intéressante se dissimulait derrière ce fait divers. Encore fallait-il parvenir à la découvrir. Après avoir tâté de tous côtés sans succès, il décida de voir ce qu'il pourrait tirer de Garland et de Joe. « Salut les gars !» s'écria-t-il, apparaissant brusquement au-dessus du capot de la voiture. « Alors, on l'a retrouvé, votre piqué ?»« Pas la peine de rien nous demander, Jack !» dit Garland, se remettant à fourbir. « On est des employés, c'est tout. Pas vrai, Joe ?»« C'est comme il dit !» fit Joe, avec un clin d'œil à Margrat. « J'avais dans l'idée que vous aviez peut-être quelque chose, » dit Margrat, faisant tinter son argent dans sa poche de façon suggestive. Le nom de la poule, par exemple, j'ai encore de la marge sur ma note de frais au cas ça vous intéresserait. L'air indifférent de Garland et de Joe disparut comme par enchantement. Quelle marge au juste, Jack ? S'enquit prudemment Garland. Fort respectable. Donc si vous savez quelque chose, c'est le moment d'accoucher, mes petits agneaux. Nous, on veut bien, dit Garland, regardant par-dessus son épaule. Pour $100, on l'ouvre. Hein, Joe ? D'accord, fit Joe en se frottant les mains. Margaret tira de sa poche un rouleau de coupures dont il détacha 4 billets de $25. Je ne me suis pas embarqué sans biscuit. Je pensais bien qu'on finirait par s'entendre. Alors j'écoute. C'est l'héritière de John Blandish, dit Sam tout en prenant les billets. Qu'est-ce que vous en dites ? Margaret avança d'un pas. Que voulez-vous dire ? S'exclama-t-il d'une voix rauque. Qu'est-ce que c'est que ce bobard ? C'est exactement comme je vous le dis, reprit Sam tout en tendant deux billets à Joe. Vous aviez bien entendu parler de John Blandish ? Eh bien, ce type-là avait une fille qui a été kidnappée. Musique.
L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Les pendules à tuer les temps qui dès nous retiendra l'instant des amants fuyant dans les vents. Nos nuits, nos ivresses, nos délires. Tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique, nos larmes nous avaient trahis peu à peu. Deux cœurs battant au bord des yeux, malheureux. Il a fallu cesser le feu comme un pot. Son bruit regarde qui pleures-tu donc à la fenêtre les givres font.
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur en direct des Prairies Saint-Martin, bien sûr sur Canal B, 94 MHz. Vous venez d'écouter Deux cœurs de Johanna Kulig. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la BO du film franco-polonais Cold War. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de La chair de l'orchidée de James Hadley Chase. Steve et Carol déjeunèrent tous les deux seuls le lendemain matin. Roy s'était levé de bonne heure pour aller pêcher la truite. « Avez-vous bien dormi la nuit dernière ?» demanda négligemment Steve tout en versant le café. « J'ai rêvé, répondit-elle. Je rêve toujours. »« Mais vous vous êtes levé, non, la nuit ?» Steve lui souriait. « Il m'a semblé entendre quelqu'un se promener dans la maison. Peut-être ai-je rêvé, moi aussi ?» « Oh non, dit-elle, touchant ses tempes du bout de ses doigts fins. Mais il a dû arriver quelque chose. Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne puis me souvenir de rien. Cela me fait peur. » Elle étendit la main à travers la table pour s'emparer de celle de Steve. « Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous. Je me sens tellement en sécurité auprès de vous. » Steve lui caressa la main, il souriait d'un air gêné. « Ça irait très bien quand même, » dit-il. « Qu'avez-vous donc rêvé, Carole ?»«
Je ne m'en souviens pas vraiment. J'ai l'impression de faire sans fin le même rêve. Il s'agit toujours d'une infirmière. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est toujours la même femme. Elle a un regard affreux et je la vois toujours penchée sur moi. J'ai eu si peur dans mes rêves que je m'éveille, terrifié, le cœur battant, et l'obscurité ajoute encore à ma frayeur. » Toute la journée, Steve se tourmenta en songeant à Carole et il y pensait toujours quand Roy revint à la nuit tombante. Roy demeura silencieux et maussade jusqu'à l'heure de se mettre au lit. Il ne quittait pas Carole des yeux. Il était déjà couché quand Steve le rejoignit après avoir tout fermé et il feignit de dormir. Steve le regarda, haussa les épaules et se mit au lit. Il était excédé des façons maussades de son frère et ne souhaitait qu'une chose, être débarrassé de lui. Dans la nuit, Roy s'assit, appela son frère à mi-voix et, voyant qu'il ne répondait pas, repoussa tout doucement ses couvertures. Il tremblait de désir, toute la journée il n'avait cessé de penser à Carole, se montant la tête résolu à se rendre auprès d'elle la nuit, sitôt Steve endormi. Carole s'était laissée embrasser sans résistance. Tout serait facile à condition de quitter la scène sans éveiller Steve. Furtivement, Roy se coula hors du lit. Steve s'agita dans son sommeil et Roy attendit, immobile, prêt à regagner son lit, mais Steve ne s'éveilla pas. Doucement, Roy quitta la chambre, ferma la porte, l'oreille tendue. La chambre de Carole était située au bout du couloir. On n'entendait pas un bruit, si ce n'est le vent bruissant dans les feuilles et le clapotis de l'eau du lac venant mourir contre le petit embarcadère. Roy se glissa le long du couloir, s'arrêta pour écouter devant la porte de Carole, n'entendit rien, tourna la poignée et entra. Carole était couchée, les bras nus, les cheveux comme une auréole de flammes sur l'oreiller. Elle était très belle ainsi, car le clair de lune sur le visage et, comme il entrait, elle ouvrit les yeux. Elle ne parut pas effrayée, ses yeux, très grands, avaient une expression paisible. « Bonsoir, mon petit, » fit Roy. Il n'arrivait pas à trouver ses mots, son corps tout entier brûlait de fièvre. « Je viens vous tenir un peu compagnie. » Carole ne répondit pas, mais le regarda traverser la pièce. « Vous n'avez pas peur de moi, j'espère. » Sa beauté lui donnait le frisson. « Oh non, » fit-elle doucement. « Je pensais que vous viendrez me voir. Je rêvais de vous. » Roy sursauta. « Vous aviez envie de me voir ?» dit-il, n'en croyant pas ses oreilles. Il s'assit près du lit. Elle le regarda gravement. « J'ai senti vos yeux sur moi toute la soirée. Vous ne m'avez pas quitté du regard. J'étais persuadé que vous viendriez. » Roy sourit largement. « Et j'ai pensé à vous toute la journée, » dit-il, posant sa main sur celle de Carole, chaude, molle, et qu'elle ne retira pas. « Je voulais encore vous embrasser. Steve ne veut pas. Steve n'en sera rien, il dort. Ça vous a plu, hein ?» Il avait accroché son visage tout près contre elle et il toucha de ses mains les seins de Carole. Elle ne bougea pas, mais le regarda sans paraître le voir. « Défaites ça, » dit-il, désignant les boutons du pyjama. « Allons, Carole, allons. Je ne veux vous pas de mal. » À son grand étonnement, la jeune fille, d'un geste mécanique, déboutonna son pyjama et il sentit sa peau nue. « Vous êtes belle, ma petite, » dit-il sans trop savoir ce qu'il disait. « Vous êtes ravissante. » Et il referma les mains sur ses seins. Le regard fixe de Carole se voila. Elle paraissait à peine entendre ce que Roy lui disa. Il glissa ses mains derrière le dos de la jeune fille et la souleva. Brusquement, un petit rire métallique échappa à Carole. Ce rire surprit Roy. « Qu'est-ce qu'il y a donc de si drôle ? » demanda-t-il en colère. Et voracement, il écrasa la bouche de la jeune femme sous la sienne. Un bref instant, elle demeura sans bouger contre lui. Puis, soudain, ses bras se détendirent, tels des ressorts d'acier, se glissèrent derrière la nuque de Roy et brusquement, la grippèrent au cou et aux épaules, tandis que ses dents s'enfonçaient dans les lèvres de Roy. Bye.
child, don't you worry, woman of trouble. I'll be all ruined. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all worried mine. Well, babe, I can't never be satisfied, and I just can't keep on. I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble, I was all worried now. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little baby, she gonna jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all worried mine. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on.
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous avez raison, toujours en direct depuis les prairies Saint-Martin. Vous venez d'écouter à Can't Be Satisfied de Muddy Waters. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour, toujours dans les pas de Roy, Steve et Carole Blandish. Dans l'autre chambre, Steve s'éveilla en sursaut. La seconde d'avant, il était plongé dans un profond sommeil. Maintenant, il était assis sur son lit, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui a bien pu m'éveiller ainsi ?» se demanda-t-il, jetant les yeux sur le lit de Roy situé dans le coin le plus noir de la pièce. Il lui sembla distinguer les vagues contours de son frère. Il regarda par la fenêtre. Carole serait-elle sortie encore une fois ? Serait-ce la raison de ce réveil brusque ? Il descendit de son lit et gagna la fenêtre. Personne sur la véranda. Il apercevait Spot, là-bas, le chien, près de hangar. Il regardait vers la maison, mais demeurait silencieux. Steve secoua la tête, bâilla, décidé à se remettre au lit. « J'ai dû rêver », se dit-il. Et puis, quelque chose le poussa. Il examina le lit de Roy. Il était vide. Il n'eut qu'une pensée, Carole, et se précipita vers la porte. Au même instant, un effroyable hurlement de douleur s'éleva dans la maison. Un silence suivit, puis une voix sanglotante brisée gémit « Steve, vite, au secours !» Les cheveux de Steve se hérissèrent en entendant la voix de Roy et, complètement affolé, il se précipita dans le couloir. Roy venait vers lui, courbé en deux, le visage enfoui dans ses mains, du sang filtré entre les doigts tombait en grosses gouttes sur le sol. « Qu'est-il arrivé ?» balbutia Steve, béant de surprise, glacé de terreur. « Mes yeux !» sanglota Roy. « Elle m'a aveuglé !» « Au secours, Steve, pour l'amour de Dieu, fais quelque chose !» Steve l'empoigna. « Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire, toi » s'écria-t-il, repoussant le blessé. Il courut à la chambre de Carole, trouvant la pièce vide, s'élança vers la fenêtre et s'arrêta brusquement pétrifié. Carole, debout sur la plus haute marche de la véranda, regardait dans sa direction. Son torse était nu et ses yeux, au clair de lune, brillaient comme ceux d'un chat. Steve demeura figé sur place. Jamais il n'avait vu beauté aussi merveilleuse, aussi sauvage. Les cheveux de Carole brillaient comme du cuivre rouge dans la clarté bleuâtre de la nuit. Sa peau avait l'éclat glacé du satin blanc sur le fond sombre du mur de la maison. Elle se tenait là, les seins tels des coupes, les mains levées, brandies devant elle comme des griffes, semblables à quelque créature sauvage aux aguets. étonnant spectacle qui stupéfia Steve, mais aussi lui communiqua une sorte d'étrange exaltation. Et puis, elle détourna, descendit l'escalier et traversa la cour en courant. « Carole !» s'écria Steve, penché vers elle. « Carole, revenez !» Mais avec une impitoyable rapidité, elle avait disparu dans le bois de pins. Ne sachant que faire, Steve demeurait là, hésitant, mais les gémissements de ce frère le ramenèrent dans le coin. « Reprends-toi un peu, voyons, » dit-il non sans impatience. « Tu ne dois pas être si mal en point que ça. « Puisque je te dis qu'elle m'a crevé les yeux !» hurla-t-il frénétiquement. Steve recula, pris de nausées, pétrifié. Les yeux de Roy nageaient dans le sang. De longues, de cruelles marques d'ongles traversaient son front, ses paupières, ses joues. Roy paraissait sur le point de se trouver mal. Il s'accota au mur, gémissant, tremblant de la tête aux pieds. « Sauve mes yeux !» s'oplia-t-il. « Ne me laisse pas devenir aveugle. Ne me quitte pas, Steve. Elle reviendra. Dieu, elle est folle. C'est une criminelle. Regarde ce qu'elle m'a fait !» Steve le prit et le portant, le traînant à moitié, parvint à l'étendre sur son lit. « Calme-toi un peu, » dit-il d'un ton bref au misérable, sanglotant. « Je vais te panser, mais tâche de te calmer un peu. » Il alla chercher sa pharmacie portative, mais une bouillotte sur le feu. « Ne me quitte pas, » gémit sans Roy. « Je ne vois plus, elle va revenir. » « ça va, lui cria Steve de la cuisine, énervé lui aussi. Il revint à la chambre, « je suis là maintenant. Je vais te bander les yeux. C'est sans doute parce qu'il saigne que tu n'y vois rien. »« Je suis aveugle, je sais bien que je suis aveugle, » gémit Roy. « Ne me quitte pas, Steve. Ils sont à mes trousses, ils me tueront s'ils arrivent à me découvrir. Et maintenant, je suis sans défense. Je ne peux plus me sauver tout seul. »« Qui est à tes trousses ?» demanda Steve d'un ton dur tout en versant de l'eau tiède dans un bol. Les Sullivan, à voir Roy, tandis que sa main tâtonnait en vain pour trouver celle de son frère. « Ça ne te dit rien à toi, personne ne les connaît, ils travaillent en douce. Ce sont des tueurs à gages. Bernie le banquier a loué leur service pour me descendre. »« Ils ne viendront pas te descendre ici, » dit Steve. « Tu es en sûreté, voyons. Je vais te baigner les yeux, ça va peut-être te faire un peu mal, attention. »« Ne me touche pas, » s'écria Roy en s'écartant. « Je ne pourrai plus supporter le moindre mal. » Steve attendit. « Qu'est-ce que tu as fait à Carole ?» demanda-t-il quand Roy parut un peu plus calme. « Rien. Elle avait envie que je vienne la voir, elle me l'a dit. Elle m'a laissé l'embrasser, ensuite je n'ai pas pu me détacher d'elle. Bon Dieu, quelle force ! Elle me tenait par le cou, elle m'a mordu la bouche. C'était affreux. Ses yeux luisaient, je me suis débattu et au moment où j'allais m'échapper, elle m'a labouré le visage avec ses ongles. On aurait dit les griffes d'un tigre, elle était folle, une vraie bête sauvage. » « Elle a pris peur, » dit Steve, le cœur serré. « Je t'avais bien dit de ne pas la tourmenter. Si les Sullivan viennent maintenant, qu'est-ce que je vais faire, Steve ? Tu ne les laisseras pas me tuer, » dit. Roy s'assit et fourgonna frénétiquement sous son oreiller. « Tiens, prends mon feu, tire à vue, tu les reconnaîtras tout de suite. »« Calme-toi, Steve, avec impatience, » dit-il. « Tu n'as rien à craindre. Tu ne les connais pas, ce sont des tueurs de métier. Ils ne lâchent jamais un type qu'ils se sont engagés à tuer. » « Bernie les paye bien, ils me trouveront, je sais bien qu'ils me trouveront. »« Mais pourquoi ?» demanda Steve. « Pour quelles raisons doivent-ils te tuer ?» Roy l'attrapa par son veston. « Bernie et moi, on a dévalisé une grosse banque et j'ai filé avec tout le fric. »« Bernie m'avait refait plusieurs fois et je m'étais promis qu'il ne l'emporterait pas au paradis. »« 20 000 $, j'ai pu les mettre à gauche, mais Bernie a chargé les Sullivan de régler l'affaire. »« Il sait bien qu'ils auront ma peau. » Et ils l'auront. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, La chair de l'orchidée de James Hadley Chase est éditée par la maison d'édition Gallimard. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter comme d'habitude en podcast pour ceux qui ne seraient pas actuellement aux Prairies Saint-Martin. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne lecture.